bonsoir à tous, c'est Indélébile, on est ensemble jusqu'à 21h sur les ondes de Syllab. Avec moi, et bien comme chaque semaine, Manon et Pauline, ça va bien ?
On tient
ça
le coup,
yes.
Vous tenez le coup ? C'était si dur que ça les barres en trans hein.
À qui pose la, à qui tu poses
ouais,
la question ?
Ouais, c'est vrai.
Alors, on, vous l'aurez donc compris, on va revenir sur les barres en trans pendant toute l'émission, on va revenir un peu bah, sur les concerts que l'on a vus, et puis on vous diffusera également deux interviews que l'on a, bah, que l'on a fait durant le festival. Il s'agissait de The Blind Sons, un groupe de rock venu d'Angers, et également de Clara Luciani. On vous passera de ça tout à l'heure, et puis on vous passera également quelques artistes qui nous ont particulièrement marqué, et on va donc y aller eh bien, sans plus tarder pour Indélébile. Et donc je le disais eh bien, tout de suite, justement, il y aura, on va parler d'un groupe de rock qui vient d'Angers. Parce que vous n'êtes pas sans l'ignorer, il y a un peu de rock à Angers, évidemment, n'est-ce pas Pauline ?
Il paraît, oui, puisque moi je n'ai toujours pas été à Angers. Donc,
c'est vrai,
tu n'as jamais été. J'ai entendu dire,
tu as entendu dire.
Il y a du rock à manger.
Et la rumeur est plutôt fondée. Alors du coup, il s'agissait du groupe The Blind Sons qui jouait en ouverture de la soirée au Tiana eh bien, jeudi dernier. Ils ouvraient notamment pour le groupe La Main. Alors eux, ils étaient, pour expliquer un petit peu comment était fait la soirée était, c'était des cartes blanches qui étaient données à différentes SMAC de France. Et donc les SMAC, c'est des salles musicales qui accompagnent, vraiment, qui font un travail d'accompagnement avec les artistes. Et dans leur cas, donc, c'était le Shabada d'Angers qui les avait invités pour la soirée, et donc pour jouer leur morceau. Ils ont sorti un EP il n'y a pas très très longtemps de ça, il y a quelques mois, qui s'appelait I Can See You. Ils avaient sorti un album donc il y a maintenant, il me semble, deux ans.
2014
pour The Blind Sons. Et du coup, on a discuté un petit peu eh bien, de ce qu'était le groupe, de qu'est-ce qu'ils allaient devenir, de qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Et je vous propose d'écouter avant l'interview un morceau de cet EP. Justement, là on entend juste derrière nous Hovering, et on va écouter American Psycho.
Can you feel my breath?
Bah bonjour The Blind Sons, comment est né le groupe ?
Alors on est trois dans The Blind Sons et c'est né suite à un autre projet qui s'appelait Scarlett où deux d'entre nous étions, donc Dorota au chant et moi Romain à la guitare. Et en fait on composait beaucoup avec ce groupe là et on avait quelques morceaux qui collaient pas à l'univers de Scarlett. Et en fait au bout d'un moment on en a très vite eu plus d'une dizaine, 12 ou 13. Et donc on a décidé, parce que c'était des maquettes qui étaient quand même un petit peu élaborées, dans notre petit home studio, on a décidé de les sortir sur le net, tout simplement juste pour les faire écouter, sans avoir forcément l'ambition de monter un projet live. Donc c'était vraiment un projet studio au tout début. Et suite à ça, donc ça c'était en fin 2014, suite à ça on a eu des bonnes chroniques de la presse, enfin quelques journalistes qui avaient reçu le disque ont vraiment accroché, et puis on a commencé à avoir une petite base fan aussi qui s'est formée sur le net et qui nous ont demandé forcément de quand est-ce qu'on faisait des concerts. Donc on a recruté Jérémy à la batterie donc pour faire une formation live, mais ça a été bien 3-4 mois après la sortie de l'album.
Notez que vous aviez recruté Jérémy, donc à la base c'est quand même vraiment que vous deux en fait, le groupe, c'est pas vous trois, c'est surtout vous deux.
Au niveau de la composition, oui, les morceaux étaient composés avant qu'on crée vraiment The Blind Sons, l'entité qui est aujourd'hui à 3, oui. Mais à la base, oui, c'était juste un ensemble de morceaux, en fin de compte. Tu vois, c'était plus un album qu'un groupe. Mais maintenant, effectivement, on travaille plus à 3 et dans des vraies conditions studio. Parce que là, le premier, c'était vraiment en plus très à l'arrache, très rapidement. Et là, du coup, on a ressorti un EP où du coup, on enregistre tous les trois.
Comment ça se passe ? Vous travaillez vraiment tous les trois, à la fois sur le texte, sur la musique ? Il n'y a pas une répartition ou quelque chose comme ça ?
Ça reste des idées qu'on apporte surtout moi et Dorota au début. Les textes plus elle que moi. Et ensuite, après, on fait des arrangements un petit peu ensemble. Puis en studio, c'est vrai qu'on chamboule toujours un petit peu tout au dernier moment. Donc voilà, on refait ensuite en studio des modifications finales.
T'en parlais tout à l'heure un petit peu en répondant à ma question. Vous aviez un autre groupe avant les Scarlett. Je sais pas si ça existe encore, du coup, s'il existe.
Alors en fait, c'est compliqué avec Scarlett. C'est qu'on est parti sur les Blind Sons parce qu'on nous a appelé plus ou moins, en fait, c'est le public qui nous a conviés sur scène en quelque sorte. Du coup, Scarlett, on l'a mis en stand-by, et c'est toujours en stand-by. On verra bien, peut-être un jour, on va sortir. On a un album en attente, qui n'est jamais sorti. Donc, on aimerait bien le sortir un jour, mais peut-être sous un autre nom, pour le coup, parce que Scarlett, c'est un petit peu dépassé. Voilà.
Justement, donc, il y avait Scarlett, toi, tu fais partie d'Eagles Gifts aussi. Est-ce que, justement, d'avoir plusieurs groupes, plusieurs projets, c'est une manière aussi de travailler différemment et de varier un peu les sons que vous produisez ?
Ouais, c'est vrai qu'en plus, la Blind Sons, pour le coup, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je parlais de Scarlett parce que c'est ce qui nous réunit aussi avec Dorota. Mais au même moment, j'enregistrais un album avec Eagles Gifts, le deuxième album. En fait, ça a été, je pense, un peu le mélange des deux univers, celui d'Eagles Gift qui est quand même très psychédélique, très planant, et Scarlett qui était beaucoup plus rock garage et pop garage, on va dire. Et avec Blind Sense, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il y en a toujours les mélodies et le côté rock, mais avec des atmosphères beaucoup plus planantes, beaucoup plus d'effets, de reverb, de délai sur le traitement des sons. Donc en fait, c'est un peu, un peu entre les deux. C'est drôle.
Et vous avez aussi votre propre label que tu as fondé il y a 3-4 ans, c'est ça ? Wild Valley Records. Qu'est-ce que ça vous apporte de plus d'être directement sur votre propre label ?
Wild Valley, on l'a créé juste pour officialiser un petit peu le travail qu'on fait depuis toujours, en fait, parce qu'on s'auto-manage depuis le début du groupe, même avant. Donc c'était un petit peu le but de ce projet. C'est un label aujourd'hui, administrativement parlant. Donc on produit nos disques, on s'auto-manage, on manage aussi d'autres projets, parce qu'on n'est pas que, il n'y a pas que nous dans le label aujourd'hui. On a plusieurs projets, on travaille aussi avec les États-Unis un petit peu, avec Austin principalement. Ça fait 3 ans qu'on a créé le label, mais il évolue encore, puis on a pas mal de projets actuellement, en fait.
Tu le disais, vous avez d'autres projets, d'autres groupes sur le label. Est-ce que justement de travailler avec ces projets-là, ça apporte aussi quelque chose à votre musique, une manière différente aussi de voir votre musique et une envie aussi d'aller vers d'autres choses?
Et comme je disais, on travaille pas mal avec Austin depuis 2-3 ans, puisque Angers, la ville d'où on vient, est jumelée à Austin, au Texas. Et donc, rien que le fait d'échanger avec les artistes de là-bas, effectivement, ça nous influence aussi pour notre travail, entre autres. Après, c'est valable aussi pour les groupes français, les groupes qu'on découvre, qui nous inspirent aussi. Oui, tout à fait, c'est un partage.
Tu le disais, vous venez d'Angers. Est-ce qu'il y a eu un effet un petit peu aussi de lévitation sur l'envie d'aller vers quelque chose de plus psyché ou ce genre de choses ?
C'est vrai que Lévitation, c'est arrivé en 2013, la première édition, septembre 2013, et c'était effectivement au même moment que j'ai créé mon groupe Eagles Gift. Enfin, j'avais créé le groupe un petit peu avant. Donc en fait, il y a eu plus une coïncidence qu'une cause à effet, parce que Eagles Gift a été créé avant ce festival Lévitation sur une esthétique qui était la même. Donc après Blind Sons, en fait, on a aussi été influencé par cette esthétique là parce que j'avais ce groupe là, mais pas forcément à cause du festival. C'était plus une coïncidence qui a fait que, par contre, on a fait énormément de contacts, parce que Angers devient effectivement un peu une ville connotée musique underground, psychédélique, tout ce que tu veux, enfin toutes les musiques qui tournent autour du shoegaze, du dream pop. Et forcément on n'a même pas forcément besoin d'aller démarcher des professionnels ailleurs, parce qu'ils viennent tous les ans au moins une fois sur Angers pendant l'invitation. Donc ça nous permet de se faire des contacts et plus de démarcher, plus qu'artistiquement, je dirais que c'est vraiment plus sur le côté label que ça nous sert.
Justement, de Angers à Austin, le parallèle est assez évident. Vous avez joué au South by Southwest en début d'année 2016, vous y retournez en début d'année 2017, en mars prochain. Comment justement ça s'est passé, ce festival? C'était bien? Qu'est-ce que ça vous a apporté?
C'était très 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 intense déjà pour commencer. On est revenu complètement crevé parce que South by Southwest, c'est un festival immense en fait. Ça joue dans tous les coins de la ville, partout. Donc il y a des grosses têtes d'affiches, il y a des petits groupes en découverte qui jouent, mais vraiment partout. Et donc on a passé une semaine à Austin, on a joué quasiment tous les jours, deux fois à trois fois par jour. Voilà, à partir de midi jusqu'à 22h du soir. On a rencontré beaucoup de gens avec qui on est en contact aujourd'hui, ce qui nous a ensuite permis aussi de revenir aux États-Unis un mois après pour jouer à New York, par exemple. Et puis l'année prochaine, le but, c'est d'y revenir, parce qu'on a été repris, reprogrammé, dont on est très 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 fiers. Et donc le but maintenant, c'est d'approfondir ces contacts, aller plus loin, donc ne pas rester uniquement à Austin et au Texas, mais aller peut-être en Californie, faire un petit road trip, rencontrer encore plus de gens, et puis les ramener en France peut-être après. C'est ce qu'on a fait cette année aussi.
Comment les Américains, eux, ont réagi de voir un petit groupe français? Ça leur arrive pas forcément très souvent de voir des petits groupes français qui débarquent comme ça. Est-ce qu'ils ont plutôt bien réagi? Surtout que vous êtes un groupe français, mais qui se réapproprie quand même beaucoup l'imaginaire américain. Vous en parlez beaucoup dans les chansons, au niveau de la musique, c'est quelque chose qui est assez fort, même si on sent aussi l'influence de la musique anglaise. On peut citer quelques groupes, notamment du shoegazing, de ce courant-là un petit peu. Mais comment eux ont réagi justement?
Ouais, c'est assez drôle parce qu'effectivement, nous, on a été un peu... on savait pas trop comment ça allait se passer avant d'y aller. Parce qu'on a été pris, on pensait même pas du tout être pris. On a postulé, voilà, on a postulé sur le site internet carrément. C'était vraiment le truc, et on a eu la réponse. On était assez fous, sachant qu'ils nous ont mis vraiment en plus en tête d'affiche sur le site pendant plusieurs semaines. Donc c'était vraiment un gros coup de cœur qu'ils ont eu. On a eu des bons articles. Et en fait, ce qu'ils nous ont dit clairement sur la musique, c'est qu'effectivement, ils sentent forcément que ça leur parle, parce que nous, ouais, les influences surtout américaines, un peu anglaises, mais c'est surtout clairement, on est inspiré de la musique américaine. Mais en même temps, sans tomber dans certains clichés, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de clichés. En fait, ils mixent pas trop les genres. C'est-à-dire que t'as des artistes de country qui sont excellents, t'as des artistes de pop qui sont excellents, t'as tous les styles. Et le fait, en fait, de mixer plusieurs choses, ils ont l'impression que c'est frais. Pour eux, ils n'ont pas vraiment entendu ça, mais en même temps, ils ont entendu ça à fond. Tu vois, c'est un espèce de truc entre les deux. Et du coup, il n'y a pas tellement de groupes qui nous ressembleraient là-bas, tu vois, qui est mis en avant, en ce moment en tout cas. Mais oui, ça leur parle à fond au niveau des textes, des genres musicaux mélangés. Donc ouais, ça, en fait, c'est une bonne formule, c'est un gros point fort. Ouais.
J'ai envie de dire qu'en fait, on s'était redécouvert là-bas, quelque part. Parce qu'avec nos textes, c'est vrai qu'en France... les gens ne comprennent pas ce qu'on raconte, alors que là-bas, en fait, ça leur parle. Et ça nous a fait, moi particulièrement, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir les gens après le concert qui me disaient « Ouais, ils sont cool vos textes, j'ai été touchée par ci, par ça ». Enfin, voilà, ça n'arrive pas ici. Donc, quelque part, en fait, on se dit que ce serait vraiment pas mal de s'exporter plus.
Justement, c'est quoi l'avenir pour le groupe? Donc, le nouvel EP vient de sortir. Il y aura la date au South by Southwest. Est-ce qu'il y a un album en préparation? Est-ce que vous comptez devenir des stars aux États-Unis?
Devenir des stars aux États-Unis, je pense que c'est compliqué. Ouais, surtout actuellement. Enfin, bon, bref, peu importe. Mais les artistes là-bas galèrent énormément. On a beaucoup de chance d'avoir le système français. Donc, on reste clairement hyper fier et on reste français à fond. On va pas demander la nationalité, non, il n'est pas question de ça. Mais ouais, on aimerait bien au moins une fois par an faire une petite tournée, un mois, peut-être deux mois, et de garder tout le temps ce pied à terre et essayer d'explorer de plus en plus, sachant que c'est énorme là-bas. Mais on veut quand même développer l'Europe quand même en priorité, oui, c'est sûr. Et on a donc un album de prévu pour fin 2017 qu'on va essayer de sortir bien en France avec en coproduction avec un autre label. Et d'avoir une tournée européenne sympa.
Peut-être dernière question. Les bars entrants, c'est peut-être pas South by Southwest, mais j'imagine que ça représente quand même quelque chose de jouer ici.
Ouais, c'est sûr. Nous, on vient de toute façon tous les ans sous l'étiquette Wild Valley pour rencontrer des gens et des marchés. Et moi, j'avais joué effectivement avec Eagles Gift il y a deux ans pour les trans. Et c'est vrai que c'est toujours un des rendez-vous pour rencontrer du monde au niveau professionnel. Donc c'est sûr que ça reste un concert sympa dans un bar, parce que l'acoustique est bonne, le matériel est bon. Donc on va se passer un bon moment avec le public, mais oui, on vient forcément aussi pour essayer de rencontrer des professionnels et puis de faire avancer notre histoire.
C'est un mini South by Southwest en fait. C'est ce qu'on s'était dit tout à l'heure, parce qu'on est arrivé, il y a plein de monde partout, il faut marcher beaucoup en fait, d'aller d'un bar à l'autre, c'est ce qu'on a fait pendant une semaine aux États-Unis. Et oui, ça rappelle pas mal cette ambiance-là, même si ici ça dure 2-3 jours, oui. Voilà, c'est aussi intense et c'est super d'avoir ça en France, surtout si proche d'Angers, d'où on vient, voilà. Donc c'est cool. Après, les bars en trans, c'est la première fois qu'on les fait. Parce que les trans musicales, on nous a dit tout à l'heure, c'est pas la même chose. Attention, ne pas confondre, voilà. Donc les bars en trans, la première fois pour nous.
Voilà, c'était donc The Blind Sons avec American Psycho et Checking All Over. Et on va donc enchaîner avec un autre concert qui était jeudi, que tu as vu aussi, Pauline, c'est celui de La Féline.
Oui, j'ai pas vu beaucoup de concerts pendant les Barons Trans, mais j'ai vu La Féline. Enfin, après l'avoir loupé en plus au mois de mars, c'était pas la première fois qu'elle venait jouer à Rennes.
Non, en effet, elle était venue en mars, un peu hors album. Là, elle était venue présenter, enfin là, cette fois-ci, elle est revenue pour les Bars en Trans présenter son deuxième album Triomphe qui sortira fin janvier le 27.
Ouais, on a très hâte. C'est un concert que j'ai beaucoup aimé, donc il ouvrait la soirée à la place jeudi soir. Je pense que même pour elle, c'était un petit peu stressant au final, parce qu'elle jouait beaucoup de morceaux qui vont paraître en fait sur le nouvel album. Donc
oui, et puis dans une disposition qui était complètement inédite pour elle, hein, parce qu'elle avait des nouveaux musiciens, ils étaient quatre, hein, jusque-là ils étaient plutôt trois en concert, avec des morceaux, comme tu disais, ouais, qui étaient plutôt nouveaux pour la plupart.
Ouais. Ouais, donc je pense que le public des Bars en Trans n'étant pas forcément le plus expressif en début de soirée, c'est pas forcément évident de savoir... Quelle réaction on a en face de soi, mais au final, je pense que de ce que j'entendais, les gens autour de moi étaient plutôt contents. Je pense que des gens devaient déjà connaître en fait La Féline et ce qu'elle faisait. Donc c'était un concert très satisfaisant. J'étais très contente en fait de découvrir tous ces nouveaux morceaux dans cette version en plus live. Donc ça donne encore plus envie d'entendre son prochain album.
En live, c'était plutôt très bien. Dernière, nous, on entend Senga, que d'ailleurs, elle nous avait joué ce week-end en live. Si vous pouvez retrouver les émissions sur, bien sûr, le site de Syllab, hein, vous pouvez retrouver les trois émissions qu'on a fait, avec notamment donc le live de La Féline avec Senga, et puis également l'interview que l'on a fait. Alors je vous propose, parce que de toute façon on reparlera de l'album quand il sortira fin janvier, d'écouter un autre morceau de l'EP qu'elle avait sorti donc avec Senga il y a maintenant un mois de cela. Le morceau s'appelle Trophée.
Le monde est une...
donc La Féline avec trophée extrait de l'EP Sanga. Et puis donc on rappelle, La Féline reviendra avec un album fin janvier. Maintenant on va continuer avec un autre groupe, bien que on a également interviewé durant le week-end. Là vous pourrez retrouver là aussi l'interview et bien sur le site avec les différentes interviews qu'on a fait ce week-end. Il s'agit du groupe parisien Palatine qui jouait bien vendredi soir au Gatsby Club, un groupe parisien qui fait un mélange de folk et de pop et de chansons françaises. Je pense que maintenant je te vois hocher la tête.
Ouais, c'est ça. Moi, ça me plaît beaucoup ce que fait Palatine. C'est en français, en anglais d'ailleurs.
Il y a un peu les deux,
ouais. Ouais, sur certains morceaux. Et puis, ouais, l'univers. J'ai vraiment accroché à l'univers de Palatine pour le coup. La voix du chanteur. Mmh. Enfin, ça transporte beaucoup comme musique, j'ai l'impression.
Avec beaucoup de références aussi folk nord-américaines qui sont assez présentes. Et puis aussi un gros travail sur l'image. Ils nous en parlaient justement avec un intérêt. Et un travail sur les clips qui est assez fort, qu'on vous conseille pardon, d'aller voir si vous en avez l'occasion. Et donc on va écouter un extrait de leur EP qui est sorti il y a maintenant un mois, qui s'appelle Le Bâton Rouge, et le morceau qu'on va écouter s'appelle Noir Nord.
Oh,
Noir Nord de Palatine, donc un groupe parisien qui a un univers très agréable et très sympathique. Donc je vous conseille personnellement en tout cas.
Et maintenant on va passer en Belgique avec un autre groupe qui s'appelle pour le coup Dansan, qui ne sont pas tout à fait des inconnus puisqu'ils ont déjà sorti deux albums. Le premier, il me semble que ça devait être en 2012, leur dernier c'était en septembre dernier. Le titre de l'album que je regarde un peu, c'est Shelter, voilà, tout à fait, je me souviens plus exactement du nom de l'album. Alors toi aussi donc tu y étais, Pauline, c'était à la place jeudi et je crois que tu as beaucoup aimé.
Ouais, c'était vraiment top, je m'imaginais pas qu'on puisse faire un concert aussi animé, aussi agité dans un tout petit espace, parce qu'à la place l'espace scène est quand même assez réduit. Et pourtant, non, ils bougeaient partout avec leurs instruments.
Ils ont même interprété un bout de morceau dans le public.
Oui.
Ils sont nombreux en plus, hein. Ils sont 6, ouais, si je ne me trompe pas, ils sont 6 hein, sur scène.
Ouais.
Donc déjà, pour les faire passer sur la toute petite scène, ce n'était pas évident. Et en plus, ils ont réussi quand même à se frayer un passage dans le public pour jouer un petit peu.
Ouais, ce qui était au final plutôt bien. Au début, j'avais un peu peur parce que c'est un peu le truc attendu du groupe de musique un peu folk, rock, ce genre de truc. On se met au milieu du public et puis on joue un morceau. Et en fait, c'est tellement sincère chez eux et tu sens qu'ils sont juste tellement contents d'être avec leur public qu'au final, ça passe super bien et ça a donné un très beau moment. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter?
Pas spécialement. Du coup, je vous propose d'écouter un morceau donc, de l'album Shelter. Le morceau s'appelle « America ».
While you're losing face, looking for a miracle, waiting for a day, you don't know your way, future's a grey area. Pieces of yourself lying on the shelf, live it all to be surprised. Lose this. Don't stay here, you must go to realize. Too lazy to be what you want. You don't know where to start. Life just comes apart. Place, you know where to grow.
c'était Dan San, donc on a choisi le titre America, ce qui leur convient plutôt bien pour un groupe belge en fait.
Oui, qui fait un peu canadien.
Ouais, c'est vrai, ils font un peu canadien.
Ouais, je pense qu'ils ont pas mal de répercussions médiatiques au Canada. Moi, j'ai vu pas mal de trucs sur eux au Québec en tout cas.
Ils sont très connus en fait au Canada.
C'est ça, je crois.
Très bien, on va mener l'enquête alors. Alors, on va changer un petit peu de style maintenant avec Clara Luciani qui jouait également à la place, mais elle, c'était samedi soir. Et alors, Clara Luciani, elle a sorti pour l'instant 2-3 morceaux un petit peu sur Internet, sur YouTube, un peu plus précisément. Et elle a enregistré il y a quelques semaines un EP qui sortira théoriquement en février 2017. Et puis, un album qui est également en préparation également. Je vous laisse écouter un morceau qui s'appelle Bovary. Et puis, je peux même parler du concert aussi tout de suite, en fait, le concert de samedi qui était aussi très très bien. Voilà, je pense que, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire, je ne sais pas, c'était très bien.
C'est une ancienne de La Femme, c'est ça?
Elle a un peu joué avec La Femme, oui, en effet. Elle a joué aussi avec d'autres groupes, on l'a retrouvée dans le duo Hologramme également.
Avec Raphaël aussi.
Elle a joué aussi sur scène avec Raphaël, elle a joué aussi avec Nouvelle Vague, donc elle a été. Voilà, il y a La Femme notamment, elle faisait les voix sur certains morceaux, notamment It's Time to Wake Up par exemple.
D'accord, ouais.
Donc voilà pour le CV déjà bien rempli de Clara Luciani qui maintenant entame une carrière solo. Et donc on va écouter Bovary, un des premiers titres qui est sorti pour l'instant sur Internet.
Je ne sais pas si je suis encore vivante, sinon quelle est cette douleur qui me hante. Mon corps se balance au-dessus d'une mer immense, mais je m'accroche à vous. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous. Je n'ai ni chaud ni froid, pierre bleue sous mes doigts se dessine. C'est ton cou que je tords, c'est moi que j'assassine. Notre amour n'était qu'un léger malentendu qu'on a pris au sérieux. Fallait-il en arriver là? J'ai toujours eu pour nous des projets plus heureux. Je n'ai ni chaud ni froid, je m'ennuie beaucoup. J'arrive, attendez-moi, je viens même à genoux. Je ne sais pas si je suis encore vivante, sinon pourquoi faudrait-il que je chante. Je n'ai ni chaud ni froid, et je m'ennuie beaucoup. J'arrive, attendez-moi, je viens même à genoux.
participé à plusieurs groupes, notamment La Femme, Hologramme ou encore Nouvelle Vague. Et qu'est-ce qui t'a un peu décidé de te lancer en solo?
Alors, en fait, moi, c'est une idée que j'avais toujours eue dans un coin de ma tête et j'attendais juste, je crois, d'avoir la maturité et le courage de le faire. Et en fait, j'ai eu une rupture hyper difficile. Je me suis enfermée dans le garage de mes parents et j'ai écrit genre 10 chansons, je crois, en une semaine. Et du coup, genre, je suis remontée à Paris avec ces trucs-là et je me suis dit, bon, bah, allez, c'est maintenant ou jamais. J'ai un truc à raconter, faut que je le fasse, quoi.
Tu as choisi de chanter en français, pourquoi en français? T'étais plus à l'aise avec cette langue?
Non, en fait, c'est juste que, enfin, comme je disais, quand je chantais en anglais, c'était plus par, je sais pas, presque par timidité, en fait. C'était une sorte de masque, j'avais l'impression de pas être transparente. Enfin là, en français, j'ai vraiment cette sensation d'être nue et de mettre mes sentiments les plus intimes au grand jour et tout. Et je sais pas, quand cette rupture s'est passée, c'est venu tout à fait naturellement, quoi, d'écrire ce truc-là, parce que j'avais l'impression d'avoir une certaine légitimité, de me dire, bon, bah voilà, j'ai suffisamment souffert pour avoir quelque chose à... Ça me semblait normal de témoigner dans ma langue, quoi.
Fameux un peu album de la rupture, hein, comme un peu depuis Bon Hiver, ce genre de choses.
C'est pas très original, mais je sais plus est-ce qui me disait la dernière fois que voilà, c'était prouvé qu'après une rupture, on était hyper créatif, et même pas que artistiquement, apparemment, il y a plein de gens, genre même des ingénieurs et tout, qui faisaient des... Qui était genre beaucoup plus performant après avoir eu le cœur brisé, quoi.
Ça va mieux depuis?
Ah voilà, je vais très très bien. Surtout depuis que je suis arrivée, je suis super contente de jouer ici, donc tout va bien.
T'es contente de venir au bar en transe? Finalement, t'avais quelques concerts jusque-là, mais c'est un concert assez particulier pour toi.
Ouais, c'est ça, c'est hyper particulier. Et puis en plus, tu vois, mais ça fait 5 ans que je suis à Paris, 5 ans que je suis entourée de musiciens qui me parlent tout le temps des bars en transe, qui me disent putain, mais tu connais pas, mais c'est trop cool et tout, c'est vraiment hyper spécial, l'ambiance. Et effectivement, là j'arrive et il y a une espèce d'émulsion, genre c'est assez unique. Et voilà, je suis contente d'expérimenter ça et tout, ça me fait vraiment plaisir.
Parler un petit peu de nudité pour parler de tes textes, les quelques morceaux que tu as déjà sortis sur internet, sur YouTube en fait, c'est des morceaux où tu es juste avec une guitare, si je me trompe pas. Donc là aussi, il y a ce côté un peu dépouillé, c'était une envie que tu avais aussi d'avoir quelque chose de très minimal, ou en fait c'était juste que tu t'es retrouvée toute seule et tu avais ta guitare, c'était beaucoup plus simple de travailler toute seule sans aux autres musiciens?
Non, je pense que ça venait principalement d'une envie de retranscrire les chansons comme elles m'étaient venues aussi, tu vois, qu'il y a une espèce de trace voilà, leur forme première. Et du coup, c'est vrai que moi, quand j'écris mes chansons, c'est comme ça, tu vois, j'en joue sur ma guitare avec mon ampli, enfin sans artifice, sans rien, et c'est toujours encore aussi un souci d'honnêteté, quoi. J'essaye toujours de faire des choses assez honnêtes et d'utiliser le moins d'artifice possible. Et j'aurais pu, par exemple, en étant seule, genre rajouter des boîtes à rythme, des trucs comme ça, et au final je me suis dit, bon bah, quitte à être seule et quitte à être nue, autant l'être vraiment. Et juste voilà, en plus je suis pas du tout une grande guitariste, donc tu vois, j'ai des possibilités assez limitées, mais je sais pas, je trouvais ça assez audacieux et je trouvais ça plus courageux d'y aller comme ça. Ouais.
Dans tes morceaux, la voix est aussi extrêmement importante, c'est quelque chose que tu travailles beaucoup, la voix?
Non, en fait pas du tout, c'est comme la guitare, c'est pas du tout par flemme, hein. Ça pourrait ça donner cette impression-là, mais c'est pas du tout le cas, c'est juste que, encore une fois, je sais pas, j'ai l'impression qu'au plus on travaille quelque chose et au plus effectivement on arrive à une technique, mais en même temps on perd aussi ce truc de spontanéité, de naïveté, et moi c'est quelque chose que j'ai vraiment pas envie de perdre, au contraire j'ai envie de le cultiver, donc c'est pas très important pour moi d'avoir une voix parfaite. Je trouve ça beau quand certains soirs, bah voilà, je suis fatiguée, du coup ma voix, bah, elle se brise un petit peu, ou j'en sais rien, et genre c'est les aléas de la vie, et bien sûr que c'est très important pour moi la voix, quoi, mais j'ai pas envie non plus de, tu vois, faire des vocalises ou des machins hyper Lara Fabianesque, tu vois, c'est pas... Non, ouais, c'est pas trop ma cam.
Tu viens d'enregistrer ton EP qui sortira donc en début 2017, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça. Ouais.
T'as travaillé avec The Shoes, qu'est-ce qu'ils ont apporté justement à ta musique? Parce qu'ils ont un travail qui est complètement différent, avec beaucoup d'ordinateurs, toi c'est pas forcément ton mode de fonctionnement, qu'est-ce que ça a permis de travailler avec eux?
Alors déjà, je voudrais juste dire que j'ai travaillé surtout avec Benjamin Lebeau des Shoes, pas ce cher Guillaume, et que j'ai travaillé également avec Ambroise Guillaume, qui était dans Revolver et qui maintenant fait son projet qui est très beau, qui s'appelle Sage. Et en fait, c'est des personnes de qui je me suis rapprochée pour différentes raisons. Déjà parce que du coup, je suis pas une très grande musicienne comme je te disais, donc je tourne facilement en rond et mes chansons, elles sont un peu bordéliques, et j'arrive, voilà, avec la chanson squelettique que je montre à Ambroise en lui disant qu'est-ce que t'en penses, et lui, voilà, il va remodeler le truc, rajouter des ponts, couper des trucs, changer les accords. Et Benjamin Lebeau, c'est encore différent, c'est que moi j'ai pas mal de références un peu 60s, un peu vintage et tout, et j'avais pas envie juste de faire un espèce de je sais pas, de truc rétro et tout, ça m'intéressait pas. J'avais envie de m'approcher de sonorités un peu plus peu plus contemporaine et tout, et j'avais pas les outils pour, quoi. Et du coup, avec Benjamin, on a réfléchi à tout ça, et il a commencé à bidouiller plein de sons, parce qu'il a plein de machines partout, c'est un peu un genre de professeur fou, c'est hyper rigolo de le voir travailler. Et lui, voilà, il a apporté plein de sons hyper modernes, à la fois hyper, je sais pas, rugueux et tout aux chansons, et je suis vraiment contente de l'association de leurs deux créativités, je trouve ça hyper réussi, quoi.
Là, on parlait de l'EP, donc parlait aussi de que t'avais pas mal de chansons venant de Prêtre. Est-ce qu'il y a déjà après, est-ce que tu penses déjà un peu à un album pour après ou tu te laisses le temps?
Non, ouais, c'est vraiment en cours, quoi. Genre, j'ai les chansons pour, enfin, je crois. Et du coup, on a commencé un peu à maqueter tout ça et tout, c'est un peu sur les rails, là. Je suis super heureuse d'ailleurs.
Tu parlais un peu de tes références un peu 60s, t'en as pas un petit peu marre déjà d'être pas mal comparé à Françoise Hardy, c'est ce qu'on peut retrouver un peu dans la presse, ou t'assumes complètement justement cette filiation là?
Ah bah non, mais en plus, je capte pas trop pourquoi, parce que ok, j'ai la frange et tout, mais je capte pas trop le rapport avec la choucroute, comme on dit. Et puis, non, mais la dernière fois, on en a fait une pas mal, tu sais, on m'a comparé à Francis Lalanne. Je me suis dit, bon, bah au moins, c'est absurde, mais au moins ça a le mérite d'être original, parce qu'effectivement Françoise Hardy c'est un peu redondant, donc voilà, ça m'a fait marrer, mais non, mais en plus j'ai pas l'impression d'être voilà, bloquée dans ce truc vintage non plus. Ça fait partie de mes inspirations, mais de toute façon je crois que les années 60 c'est inspirant pour pas mal de musiciens, notamment parce qu'il y a eu les Beatles ou des groupes comme ça assez énormes. Je pense que tous les musiciens reconnaissent voilà, le talent de ces groupes là et ce qu'ils ont apporté à l'histoire de la musique, quoi. Bah, j'essaye pas d'imiter ça en tout cas du tout.
Qu'est-ce qui t'influence du coup exactement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique, ou qui t'a un peu guidé aussi dans ta manière d'écrire?
Bah, c'est un patchwork, quoi. Il y a pas vraiment une personne ou un truc, mais moi j'ai toujours aimé les femmes qui font de la guitare et qui écrivent leurs trucs et qui sont fortes. Je trouve qu'il y en a malheureusement pas assez dans la musique. Ouais, voilà, PJ Harvey, moi je suis une très grande fan, je l'ai vu là, la dernière fois au Zénith, c'était incroyable et ça m'a donné une très grosse claque et ça m'a donné encore envie de travailler davantage pour pouvoir faire quelque chose d'aussi fort. J'aimais bien Jan Jett aussi, j'aime beaucoup Patti Smith, tu vois, ces figures-là de femmes, c'est des icônes, quoi, tu vois. Et...
Dis-moi pourquoi je sombre dans des eaux, dans des ombres dans lesquelles je me noie. Dis-moi, quelle est cette colère qui me tord, qui m'atterre, que je ne connais pas.
Maintenant, on va passer eh bien, peut-être un morceau d'un groupe qui jouait pour leur part vendredi. C'était au Kenland. Le groupe s'appelle Le Colisée. Et ils sont belges. Il y a encore des Belges, d'ailleurs. Et pour le morceau qu'on va vous passer, c'est un duo avec François de François Nzatas Mountain.
Ils sont très amis, je crois, non?
Oui, voilà. Ils sont non seulement très amis, mais en plus, le chanteur en fait, du groupe Le Colisée fait maintenant partie de François Nzatas Mountain, en fait. Voilà,
ça
il joue maintenant dans le groupe. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Et c'est pas pour rien que, du coup, François fait un duo sur l'EP. Donc, l'EP s'appelle Vie éternelle. Il est sorti il y a déjà quelques semaines, voire mois, je ne sais plus exactement. Et le morceau que l'on va écouter s'appelle Age of Love.
Avenir transhumain, post-humain avenir, nous réserves-tu le pire ou le meilleur? But I wish I'll always love. I will always love. Always love. Avenir transhumain, post-humain à venir, nous réserves-tu le pire ou le meilleur? I won't live forever, but I wish I always loved.
Age of Love.
Et donc voilà, un concert au Kenlang qui était plutôt intéressant, un peu compliqué aussi, ils avaient des problèmes techniques puisqu'ils ont pu jouer avec une grosse demi-heure en gros, puisqu'il y avait des retards sur leur balance notamment, mais ils ont fait quand même un concert qui donne plutôt envie de voir un petit peu la suite des choses pour eux, en attendant donc peut-être un album ou en tout cas d'autres EP. On verra ça. Et on va terminer avec un artiste dont on avait parlé il y a maintenant un mois ou deux, quand son album était sorti. Il s'agit d'un certain Lafayette qui a sorti son premier album, Les Dessous Féminins, en octobre, et qui jouait lui aussi à la place samedi soir, juste avant Clara Luciani, justement. Et c'était là aussi un concert très 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 bon, où en plus Lafayette fait des blagues. Voilà, on ne vient pas que pour la musique, il y a un peu d'humour aussi.
C'était relayé dans
aussi.
Beaucoup d'articles, les blagues de Lafayette. C'est moi vrai. J'ai lu ça plusieurs
fois. Je crois que c'est les
Inrock
qui parlent d'un véritable one-man show. Voilà, comme quoi. Et je suis plutôt d'accord, en effet, c'est plutôt bien. Et puis on a hâte de voir la suite aussi, justement pour Lafayette, hein, avec pas mal de concerts, quelques concerts dans les prochaines semaines, un peu partout en France, et puis peut-être un nouvel album, je sais qu'il travaille un petit peu dessus déjà. Donc on va se quitter avec le morceau qui s'appelle « Je perds la boussole ». Tout un programme. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission indélébile, comme d'habitude. Bonne soirée par Rock'n'Roll High School. Après, vous retrouverez Rain to the Hills à 22h, juste après, ça sera de la musique, du coup. Allez, salut, bonne soirée.
Bonne soirée.
Mais
mes émotions me submergent comme des vagues. J'en entends une qui glisse au loin. Ça va détruire mon château de sable. Ma carapace, mon air serein. Je recherche un phare dans la nuit. Je perds la boussole.
Je perds la boussole.
Je recherche un phare dans la nuit. Un baiser, un peu trop d'alcool. Une odeur, une photo. Un phare